Salut Audrey!
Salut Max!
Comment ça va?
Ça va toi?
Ça va!
C'est vraiment une journée de schnout bon. À l'extérieur. Je suis contente d'être en studio avec toi. J'ai failli pas y arriver.
Comment ça? C'était tough?
C'était pogné, d'un parking mal déneigé, mélangé avec la slotch, l'eau, le verglas. Fait que ça va, mais ça va comme à la course.
Je comprends.
Mais je suis contente d'être là.
Ben, on est content que tu sois là aussi.
Puis ce qui est le fun ce matin, c'est qu'on a un sujet qui fait en sorte qu'on va se mettre rapidement dans l'eau avec notre invité. On va parler d'un sujet qui touche énormément l'actualité, c'est-à-dire l'immigration. Puis on entend toutes sortes d'affaires dans les dernières semaines. On a parlé des demandeurs d'asile, du PEC. On dirait qu'on parle des enjeux actuels, mais sans trop savoir l'immigration représente combien de personnes en ce moment au Québec, l'enjeu est réellement où. Et on fait appel ce matin à Simon Rondeau, qui est travailleur social, qui veut pas côtoie des immigrants, qui a un mot à dire aussi sur ce qui se passe en ce moment. Puis ce qu'on va faire ce matin, j'ai envie de dire, c'est un peu un 101. Puis ça a l'air vraiment... Ça a l'air comme spécial de revenir à la base, mais j'ai comme... Dans les dernières semaines, je me suis rendu compte que même moi, il y a comme des données des fois qui me manquent quand je lis l'actualité, puis je me suis dit, je ne vais pas être seule. Fait qu'on va revenir, bref, sur tout ce qui est immigration, sur les types d'immigration qu'on a en ce moment au Québec, entre autres. Simon a préparé aussi certains, peut-être, mythes et réalités, des choses qu'on entend de temps en temps, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Fait qu'on va faire un grand tour, et si vous avez des questions, évidemment, 88-971-101. Ce que je trouve le fun, c'est que dans nos auditeurs, on en a des gens qui ont immigré dans les dernières années, puis chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, ces gens-là, ça réagit, puis les gens ajoutent de l'information, puis moi, je fais partie des premières qui n'ont pas de... J'ai personne dans mon entourage qui a eu à faire des demandes ou qui a eu à se rendre ici. Fait que j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Simon, bon matin, premièrement.
Bonjour.
Merci d'être venu en studio, d'avoir bravé la tempête.
Hey, ça fait plaisir.
C'est moins pire qu'hier. Là. Je pense que là, on a vraiment juste le... On a vraiment la slotch à terre qui est plus tannante.
Oui.
Le monde qui oublie comment chauffer aussi, là.
Un peu. On n'en parlera pas trop, mais un peu. Ouais.
Toi, Audrey, t'as
les routes sont pas si mal.
Audrey n'a pas ce problème-là. Elle n'a jamais su comment chauffer.
Ah, t'es vraiment drôle. Hey, non, mais on dirait que ça vient choquant. Là. C'est le monde qui. C'est ça. Le monde a vraiment de la misère, ces routes. Soyez prudents.
Tu comprends comment tout le monde qui te croise se sent.
Max, t'as même pas ton permis.
Puis je conduis quand même mieux que toi. C'est ça le problème.
Ah, j'ai une vidéo à l'appui qui dit le contraire.
Il y a plusieurs personnes qui disent le contraire de ton contraire.
Simon, type d'immigrants, on ne les connaît pas nécessairement, les catégories d'immigrants qu'on a au Québec.
Ouais.
Puis c'était un peu ça le but ce matin. Hein? Tu me dis si je me trompe, mais c'était vraiment de revenir à la base pour peut-être qu'on s'éduque un peu plus sur le sujet avant de porter un jugement.
Oui, mais tu l'as super bien introduit en fait. Hein? Moi, je suis vraiment pas un expert en immigration. pourquoi c'est moi qui est là? Je pense que c'est parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait.
Ouais.
Puis ça me tente à toutes les fois qu'on parle d'immigration à la radio, qu'on parle juste d'immigration à large, alors qu'il y a plein de catégories, qu'il y a plein d'enjeux reliés à chacune des catégories, puis qu'on ne peut pas mettre ça tout dans le même panier.
Parce qu'il y en a trois, de ce que je comprends, mais il y a trois grandes catégories.
Trois grandes catégories avec plusieurs sous-catégories.
Il y a la porte permanente.
Ouais.
Plus temporaire, puis le côté peut-être un peu plus humanitaire quand on parle des demandeurs d'asile, entre autres. J'ai comme envie de te laisser aller pour nous les expliquer un peu plus en profondeur.
Je vais faire un tout petit survol de ça, puis après ça, je pense qu'on va peut-être y aller avec limite et réalité, juste parce que ça plug la matière un peu moins drabe que de vous faire un cours.
Cours universitaire à matin.
Oui, c'est ça, à vous déblatérer les infos pendant 20 minutes. Là. Dans le fond, c'est ça, tu sais, on a la porte permanente. La porte permanente, on a les immigrants économiques. Ça, c'est des gens qui sont spécialisés pour des tâches qu'on a besoin, donc qui sont ici pour la job, en fait, mais pour une job qu'on a de besoin. Pas tant qu'eux ont besoin de nous, mais que nous, on a besoin d'eux.
Par exemple, j'imagine en agriculture, souvent quand...
Eux, ils rentrent dans les temporaires.
Ah oui, OK, c'est pas la même affaire.
Les travailleurs agricoles saisonniers rentrent dans les temporaires. Ils ont toujours des permis, presque toujours des permis fermés avec une date de départ, puis ils sont obligés de repartir s'ils veulent revenir. C'est très, 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 très structuré, très supervisé de ce côté-là.
Dans les permanents, ce serait quoi, par exemple?
Les permanents, c'est vraiment des gens qu'on va chercher à l'étranger pour des compétences spécifiques. Ça peut être en santé, ça peut être en ingénierie, en technologie ou des choses comme ça, mais c'est des gens qui ont développé une compétence particulière qui répond à nos besoins à nous. Puis, ben, je l'avais mis plus tard, mais tu sais, je peux quand même le dire tout de suite. En fait, c'est la catégorie qu'on a le plus au Canada.
OK. Hein,
fait que ça va jusqu'à... Ça varie d'une année à l'autre, là, mais ce que je disais, 2024, là, 69 % des immigrants au Québec, au Canada, sont là pour nos besoins spécifiques à nous.
Et non l'inverse, parce que des fois, on dirait qu'on a souvent cette perception-là de ces gens-là viennent profiter de ce qu'on a au Québec.
Exactement.
On entend toutes sortes d'affaires, là. Nos logements, nos, t'sais, peut-être que si on accueillait moins d'immigrants, on en arracherait moins, mais dans le fond, c'est nous qui avons besoin de ces gens-là aussi. Là.
Dans le fond, les immigrants économiques, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils arrivent ici, soit ils ont déjà une offre d'emploi, ou soit ils ont de l'argent pour compenser à leurs propres besoins pendant au moins une certaine période pour pas qu'on ait à débourser, nous, pour les aider. Fait que si t'arrives tout seul, faut que t'aies à peu près 15 000 dans tes poches pour être capable de te pogner un appartement, de manger puis de te gérer le temps d'avoir ta job. Puis les montants augmentent, évidemment. Là, si t'arrives avec ta famille, bien, plus t'es nombreux. Si t'arrives à 4, c'est autour de 24-25 000. Puis après ça, c'est 4 000 de plus par personne.
OK, fait
que ces gens-là n'arrivent pas avec un compte vide en cognant à l'aide sociale. « Hey, salut, je suis ingénieur, mais j'ai besoin d'aide sociale en attendant. »
Fait que ces gens-là contribuent à l'économie dès qu'ils arrivent.
Dès qu'ils arrivent, ils payent des taxes, ils payent des impôts. Ils contribuent à tout ce qu'on paye au Québec.
Fait que dans la portion permanente, tu as les immigrants économiques dont on parle. Immigration familiale.
Oui, ça, c'est la réunification familiale. Dans le fond, c'est soit tu es déjà ici puis tu veux faire venir tes enfants, ta famille.
C'est plus facile,
ça.
J'imagine.
Oui, il y a une trajectoire pour ça. Ben, je pense qu'on rentre là-dedans aussi. Là, tous ceux qui tombent en amour avec un étranger ou une étrangère.
Ouais. C'est souvent ce qu'on entend. Là.
Fait que là, eux vont faire leur demande, puis après ça, possiblement, vont faire revenir aussi certaines personnes de leur entourage. Ce que je lisais puis que je savais pas, c'est quand on arrive, tu sais, quand c'est la famille immédiate, il y a une trajectoire pour ça, mais quand on arrive du côté de la famille un peu élargie, les grands-parents, tout ça, les oncles, il y a une loterie. Donc, ils sont inscrits, puis il y a des tirages à chaque année. On en fait venir quelques-uns, puis...
Fait que c'est pas automatique.
C'est pas automatique.
C'est bon à savoir.
Non, non, c'est ça.
Fait que la porte permanente, c'est ce qui représente la majorité des immigrants qu'on a, mais qui nous servent en réalité dans notre économie.
Oui, oui.
La porte temporaire...
Je vais juste rajouter quelque chose.
Ben oui, vas-y.
La réunification familiale, la personne qui fait venir quelqu'un devient le parrain de cette personne-là et est responsable financièrement si la personne s'endette s'il y a des problèmes ou s'il y a quoi que ce
puis
soit.
Ça, c'est malheureux parce que souvent, on entend des histoires de fraude amoureuse, entre autres, qui vont partir. Mm-hmm. Puis là, je parle pas de Roger qui va attendre avec son bouquet de fleurs quelqu'un à l'aéroport jusqu'à la fin des temps. Là, je vais parler de Roger qui s'en va dans le sud, qui rencontre la femme de sa vie, qui ramène cette femme-là ici, puis que dans le fond, cette femme-là était mal intentionnée. Mm-hmm. Puis Roger se ramasse responsable de cette femme-là.
Exactement.
Et de tout ce qui va venir.
Ouais. Fait qu'encore une fois, c'est pas un fardeau fiscal pour le Québec ou pour le Canada.
C'est
ces
pour
gens-là
Roger.
Sont responsables. Oui, c'est ça. C'est Roger qui se ramasse avec la facture.
C'est bien imagé. on salue Roger. La porte temporaire, maintenant, qui est la deuxième grande catégorie, je vais le dire comme ça.
Oui. Fait que la porte temporaire, ben, on a les travailleurs étrangers, on va dire standards. On a les travailleurs agricoles saisonniers qui ont des conditions particulières, qui ont des normes de travail quand même particulières. Puis on a les étudiants. Fait que les étudiants, je lisais là, à peu près 180 000 permis par année pour les études qui sont faites. Donc, quelqu'un peut décider de venir faire ses études au Québec, au Canada. C'est une porte d'entrée, une des portes d'entrée principales pour l'immigration permanente. C'est de venir faire tes études, après ça, travailler dans le domaine un certain temps, puis après ça, avoir ton accès à la permanence. Travailleur étranger, bien, on parle de quelqu'un qui part en voyage 6 mois puis qui demande un permis puis qui va travailler pendant ce temps-là. On parle de quelqu'un qui est dans une entreprise qui se fait transférer. Hein, l'entreprise a des bureaux en Europe, a des bureaux ici.
Mais c'est un début puis une fin.
Ça a un début puis une fin, mais souvent, la majorité, ce que je dis, la majorité des immigrants permanents passent par le temporaire. à quelque part. C'est souvent des gens qui sont déjà établis ici, ils ont déjà leur appart, ils ont déjà leur job. Ils travaillent sur des permis temporaires, puis en travers ça, ils font leur demande. Puis
pour être permanent.
On leur dit, ben gars, tu fais la job.
C'est peut-être pas des informations que tu as, Simon, mais tu sais, on a parlé des demandeurs d'asile, entre autres, dans la dernière semaine avec Bernard Drinville qui est sorti en disant, si moi je deviens premier ministre, on va couper certains services. Ouais. C'est quoi les services que ces gens-là ont quand ils sont chez nous? Parce que tu le disais tantôt, quand on parle de la porte permanente des immigrants économiques qu'on a besoin d'avoir chez nous, ils arrivent avec déjà leur portefeuille, ils viennent travailler ici. C'est pas la même chose. Mais là où ça nous, et là je fais attention à ce que je dis, coupe des services à nous Québécois, entre guillemets, c'est où ça se retrouve là, dans toute cette portion d'immigration-là?
Bien... C'est ça, puis tu sais, c'est vraiment là où souvent ça me fâche un peu d'entendre ce qu'on entend dans les médias, puis chez nos politiciens, je trouve que tu sais, dans les médias, vous avez une responsabilité, mais je trouve que dans un politicien, c'est comme tu sais, tu dois partir avec la bonne information puis être transparent dans ce que tu dis là. C'est ça, tu sais, dans la porte humanitaire, on a nos réfugiés, puis on a nos demandeurs d'asile. On entendait beaucoup de gens dire « Ah, les gens arrivent illégalement au Canada puis ils demandent de devenir réfugiés. » En fait, c'est légal. C'est ça la porte légale. C'est que tu as le droit de fuir un pays puis d'arriver dans un autre pays puis de dire « Hey, je suis en danger. Genre, gardez-moi, s'il vous plaît. » C'est ça la porte légale.
Mais faut-tu le prouver, évidemment, j'imagine.
Oui, mais en fait, tu fais une demande, tu arrives à la frontière, tu n'as aucun document, tu fais une demande officielle qui va être traitée. Ils vont regarder. T'es-tu en danger dans ton pays? T'as-tu été persécuté? Y a-tu des éléments de ta situation qui font en sorte que si on te retourne là, ça porte préjudice à ta vie, à ta sécurité? Puis ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à peu près les deux tiers des demandes qui sont acceptées parce que la personne est vraiment en danger. Puis l'autre tiers, bien, dans ce tiers-là, il y a la moitié qui est refusée puis la moitié qui est un retrait de la demande. Okay. Fait que soit la personne a choisi d'aller ailleurs ou... Je ne sais pas exactement tous les contextes, mais il y a des abandons de demandes, il y a des retraits. Puis il y a une moitié du tiers, donc un sixième des demandes qu'on dit non, tu n'es pas vraiment en danger, retourne chez toi, merci, bonsoir.
Puis quand on prend un Bernard Drinville qui veut couper, par exemple, dans ces services-là, c'est-tu parce qu'on considère que le problème dans les trois grandes portes, dans les types d'immigration, c'est la porte humanitaire?
Bien, pourtant, c'est pas la plus représentée dans l'immigration. Effectivement, comme tu dis, c'est celle-là qui prend nos services en arrivant, de toute évidence.
Parce que ces gens-là fuient des fois leur pays. Fait qu'évidemment, ont besoin d'être logés, ont besoin d'un coup de main, d'aide sociale.
Ils arrivent avec rien pantoute.
Puis c'est drôle parce que je vais en profiter, si jamais vous avez envie puis ça vous intéresse, on avait reçu Fernelle Morissette la semaine passée pour nous jaser de ça parce qu'on parlait des problèmes que ça pouvait créer si on coupait les services.
Ben oui.
Parce qu'on pense pas à ce volet-là, là, mais mettons qu'on garde les services pour nous autres. Là, parce qu'on se dit, on en arrache déjà nous autres, Québécois, on veut garder ça pour nous, on partage pas. Mettons qu'on s'en va là. Faut penser au fait que ça va amener d'autres problèmes. Là.
Mais c'est sûr.
Parce que ces gens-là, s'ils sont pas capables d'avoir une aide sociale pour se loger, pour vivre, pour se nourrir, peuvent se ramasser dans la rue. Fait que là, t'as des problèmes d'itinérance supplémentaire. Mm-hmm. C'est des gens qui peuvent se tourner vers la criminalité. On en arrache déjà, on va se le dire. On n'a même pas assez de corps policiers pour s'occuper des problèmes qu'on a en ce moment.
Mais je tiens à dire qu'ils sont très sous-représentés dans la criminalité, les immigrants.
Oui! Ah, mais ça, tu vois, je suis contente que tu me dises ça parce que j'ai l'impression que
c'est
quelque chose qu'on a en tête.
Ici, là. C'est nous les pas fins. C'est pas les immigrants. C'est sûr que, tu sais, là, je vais faire attention à comment je le dis, là, j'espère de pas être maladroit, mais quand on reçoit des immigrants puis qu'on les entasse dans des HLM, qui deviennent des espèces de ghettos, puis qu'on les maintient comme ça pendant des générations à pas leur offrir de job payant puis à pas leur mettre les conditions nécessaires pour qu'ils sortent de ça, bien là, on rentre plus dans le contexte des inégalités sociales, puis à un moment donné, bien, quand tu vois le monde se la couler douce puis avoir un chalet avec des skidous puis des gâteaux puis que toi, t'es dans chenoute, bien ça se peut qu'à un moment donné, tu ailles chercher la partie de ce que tu as l'impression qui te revient.
Mm-hmm.
Mais c'est pas...
De là, la criminalité,
c'est pas,
quand on parle
tu immigres
de ça,
et tu es criminel, au contraire.
T'as raison, c'est une pente fatale.
Moi, les demandeurs d'asile, les réfugiés que j'ai rencontrés, c'est toujours... au contraire, c'est de la grande reconnaissance, là. D'arriver dans un milieu où tout est possible, d'arriver dans un milieu où c'est sécuritaire, où tu peux marcher sans avoir peur en te rendant à l'épicerie, en revenant. Ces gens-là sont pas ici pour faire du trouble, ils sont là pour se trouver une job, pour avoir une vie,
La stratégie, entre guillemets, de Bernard Drinville, c'est de dire, au Québec sont bien en tabarouette par rapport à peut-être d'autres provinces du Canada. Ouais. Donc, si on leur enlève, ils vont aller ailleurs au Canada. Mmh. Fait que c'est surtout un gros manque de délicatesse, j'ai l'impression, de dire oui. OK, comment on peut faire pour qu'il y en ait moins? On va leur couper ce qu'ils ont ici.
Ils voudront plus venir.
Ils n'auront pas. Ils vont être corrects, là, mais ils vont aller ailleurs.
Puis là, ça nous amène dans un autre volet qui est justement le côté, ben, tu demandais quelles aides ils ont. Quand les demandeurs d'asile arrivent, ils ont le droit à des soins de santé, pas par la RAMQ, par un programme fédéral. C'est sûr qu'ils sont plus propices à arriver avec des maladies, avec des problèmes qu'on veut éradiquer de suite à l'arrivée parce qu'on ne veut pas répandre ça dans notre population. Donc, ils ont des soins de santé. Ils peuvent avoir accès à l'aide sociale de base de la province, donc à l'aide sociale du Québec.
Est-ce qu'ils gardent l'aide gouvernementale longtemps, généralement?
Je vais y venir. L'aide sociale, on parle d'à peu près 700-800$ par mois. Là. Imaginez-vous vivre avec 700-800$ par mois présentement. Oui, c'est pas beaucoup. Puis tu sais, on donne des millions, des centaines de millions à des entreprises. Moi, c'est pas vraiment la partie du 700$ par mois qui me préoccupe là, présentement. On leur donne aussi, certains ont de l'aide au logement. Fait que ça se peut qu'on te mette dans une chambre d'hôtel quand tu arrives, le temps que tu t'en revires de bord. Après ça, il y en avait-tu d'autres que j'avais noté? Soins de santé, aide temporaire au logement, services sociaux, évidemment. Puis idéalement, on veut que tu aies ton permis de travail le plus vite possible.
Pour que tu puisses te mettre sur le marché.
Puis j'arrive à ta deuxième question. Bien, généralement, on voit qu'une majorité des gens, là, en fait, ont pas besoin d'aide après. 46,7, j'avais noté. Entre 45 et 50 qui n'ont plus besoin de cette aide-là en dedans de 6 mois.
OK, ça va
quand
même vite.
En 6 mois, ils se sont trouvés une job, ils sont rendus. Ils font partie du roulement économique du Québec. Donc, ils payent des impôts, ils payent des taxes, ils achètent leurs affaires, et ils font rouler toutes les affaires. Fait à partir de quasiment 50 % après 6 mois, on n'a plus besoin de payer pour eux. Si on va à 1 an, on monte à peu près à 80 % puis si on va à 2 ans, on est à 97 % du monde qui travaille.
Fait qu'en donne 2 ans, généralement,
ils en ont plus besoin.
Ils sont très bien intégrés, font partie de notre roulement au Québec.
Puis non seulement ils font partie de notre roulement, mais ils font partie de nos services qu'on veut tant protéger. Hein? Ils sont dans nos garderies. On manque de place en garderie, mais ils sont dans nos garderies.
Ben, c'est ça que j'allais te poser. Je vais te poser une question tellement plate et remplie de jugement, mais j'ai l'impression que c'est une question que tout le monde a sur le bout des lèvres parce qu'on a envie de comprendre. Même si ces gens-là qu'on amène chez nous sont bien intégrés au Québec, ce que beaucoup de gens vont décrier, c'est « ben voyons, on manque déjà de services pour nous. Mm-hmm. » Donc, on a envie d'aider les gens à l'extérieur, mais il ne faudrait pas commencer par s'aider soi-même. On manque, tu l'as dit, de place en garderie. C'est difficile dans les écoles. C'est difficile dans notre système de santé. C'est difficile partout, en réalité, nos logements. Tabarnouche, c'est épouvantable. Je me relance dans des démarches pour acheter éventuellement un foutu bordel d'offres et de demandes.
Oui.
Fait que les gens ont quand même un point de se dire « OK, bien, tu te crois que je ne comprends pas? » Parce que c'est pas un manque de cœur de ne pas vouloir aider ces gens-là qu'on se comprend. Mais c'est un fait qu'on a de la misère à essayer de nous-mêmes. Fait que là, on fait comment?
Ouais. Premièrement, je pense qu'on se recule de l'arbre qui cache la forêt. Tu sais, justement, ben c'est ça, comme j'ai commencé à le dire, ces gens-là, c'est les services aussi. Hein? Ces gens-là travaillent dans les hôpitaux, travaillent dans les garderies, travaillent en éducation, travaillent partout. Là. Ils travaillent en restauration, ils travaillent en construction. Fait que si on les enlève, si on leur donne plus de services puis qu'ils s'en vont ailleurs, ben ça veut dire qu'on a moins de personnel dans les garderies, on a moins de place, on a moins de personnel dans les hôpitaux, on peut traiter moins de monde à la fois, on a moins de personnel en construction, on peut moins construire de logements. Fait que je suis un peu, tu sais, c'est sûr que moi, je suis pas un journaliste d'enquête, j'ai pas fait de doctorat sur cet élément-là pour répondre à cette question-là, mais ce que je lis, c'est que bon, tu sais, ils prennent quoi, à peu près 4000 places en garderie, il en manque 30 000. Fait que, tu sais, le problème, c'est pas juste nos immigrants, là. Si on les fait partir...
Deux poids, deux mesures.
Si on les fait partir, les 4 000, il nous manque toujours bien 26 000 places, là. Fait que je pense que le gouvernement est bien content de pointer vers les immigrants...
Ça donne une excuse.
Pour s'excuser de tout ce qu'ils n'ont pas fait dans les dernières années, puis les coupures qui ne cessent, puis... les éducatrices en garderie qui gagnent moins que les techniciennes pour les animaux chez les vétérinaires. Puis, c'est un peu particulier. Là,
je pourrais pas être plus d'accord avec toi
sur celle-là. Pour les gens qui forment les humains de demain. Ouais.
Puis qui font en sorte que les parents peuvent travailler.
Qui font en sorte que les parents peuvent travailler. Puis encore une fois, si on enlève le droit de garderie aux demandeurs d'asile puis aux réfugiés, bien, ils font comment pour aller travailler? Fait qu'ils restent sur l'aide sociale. Fait qu'on paye en double. Tu sais, ça n'a aucun sens comme argument de dire on va y enlever le petit peu qu'on y donne pour l'aider à s'installer pendant qu'en plus on coupe la francisation, pendant qu'on coupe les services aux réfugiés. Présentement, c'est un peu l'asile, là.
On prend pas le problème par le bon bout. C'est un peu ce que je comprends.
Vraiment pas. Puis, tu sais, dans une de mes conclusions du petit travail que j'ai fait avant de venir ici, tu sais, ce qui sortait, c'est. T'sais, on est mieux d'adapter notre capacité d'accueil à nos besoins d'immigration que notre nombre d'immigrants à notre capacité d'accueil, parce que ça ne fonctionnera pas. La majorité du monde qu'on reçoit ici, sauf justement les demandeurs d'asile, les réfugiés, on les reçoit parce qu'ils répondent à nos besoins. Mm. C'est nous qui avons besoin de travailleurs présentement. On ne fait pas d'enfants au rythme où les gens partent du travail. Notre population va aller de façon décroissante. On a besoin de gens pour venir travailler. Puis dans un système capitaliste, s'il y a une baisse de demande, ça fuck tout le reste. Là. Oui. Tu peux pas te ramasser avec la moitié de la clientèle pour tous les restaurants qu'il y a sans que tout le monde, sans que la moitié des restaurants fasse faillite. Puis, on a besoin de gens. On a besoin de gens dans nos services. On a besoin de travailleurs. Donc à partir de là, si on s'arrange pour avoir moins d'immigrants, on va être dans le trouble. Mm.
J'aime la balance que tu apportes parce que je pense qu'il y a des problèmes il y a des problèmes un peu partout qu'on doit régler, mais on ne prend pas nécessairement le bâton par le bon bout. Fait que ce que je comprends, c'est que la majorité de l'immigration est économique, donc elle nous sert. Oui. Les réfugiés représentent une minorité du système en ce moment. Puis une grande partie des immigrants permanents étaient déjà travailleurs ou étudiants au Canada. Oui. Ils vivent ici, bon, depuis plusieurs années. Je vois le temps qui file, Simon. Oui. J'ai quand même envie qu'on se fasse quelques mythes sur l'immigration. Choisis ceux que tu veux, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant comme exercice parce que il y en a beaucoup qu'on entend au quotidien n'étant pas très, très informés sur le sujet. Là.
Tout à fait. J'en avais un sur « Viennent profiter de l'aide sociale », on a répondu. Les immigrants prennent les emplois des gens d'ici, bien en fait, non. Hein. Les immigrants prennent les emplois que les gens d'ici ne veulent pas faire. C'est pour ça qu'on va recruter à l'étranger. Moi, je reste à l'île d'Orléans. Je vous garantis que dans les champs, l'été, pas beaucoup de Québécois de souche. Là.
Non, hein, et pourtant, s'il y a des Québécois qui voulaient faire la job, ils seraient embauchés.
Ils seraient les bienvenus.
Mais
on va être honnête, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de passer des journées de 10 heures dehors au soleil tout un été de temps.
Non, t'as raison.
Pour un salaire qui n'est pas, on s'entend, qui n'est pas un salaire de ministre. Là.
Non, qui n'est pas un salaire très intense.
Donc, c'est ça. Puis dans l'immigration économique, il y a une partie où même que les employeurs sont obligés de faire une étude de marché pour démontrer qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher leur main-d'œuvre.
Faut qu'ils engageraient des Québécois.
Oui, qu'il n'y en a pas de Québécois avant de les engager. Fait que c'est pas du vol d'emploi. C'est on n'en a pas de monde pour la faire, la job. Mm. Donc, on va la chercher ailleurs. Puis encore une fois, ces gens-là, c'est des gens qui vont contribuer au système, donc c'est pas des gens qui vont nous coûter. Oui.
J'ai envie qu'on parle de les immigrants ne veulent pas apprendre le français, on l'entend souvent ça.
Oui, pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent de milieux francophones dans nos immigrants. Je vois-tu là? On se plaint beaucoup des immigrants plus arabes, plus... Puis en même temps, c'est eux qui arrivent ici en parlant français. Là. Mm. C'est un peu touché. Moi,
je pense que nos œufs dans le même panier. Hein? On a comme tendance à généraliser beaucoup.
Je pense que c'est un problème qui est très montréalais, en fait. Je pense que n'importe quel immigrant qui va arriver dans n'importe quelle région ou à Québec va apprendre... Le français. Cela dit, mettons que t'es un immigrant qui parle anglais puis tu t'en vas à Montréal, t'as pas on ferait toute la même affaire.
Je pense que t'as un très bon point là-dessus.
Je capote un peu encore à toutes les fois que je vais à Montréal puis je me rends... La vie se passe en anglais à Montréal.
Puis encore là, tu sais, si on te ghettoise puis que tu te ramasses, tu sais, dans un HLM avec toute ta communauté, ben ça se peut que tu puisses t'en sortir en parlant plus ta langue que le français, puis que ça fasse en sorte que ton intégration soit moins bonne.
On ferait pareil en passant. Réfléchissez deux secondes. Mais c'est si ça, tu te ramasses ailleurs.
T'es bien content de trouver quelqu'un qui parle ta langue puis de la maintenir. Mais effectivement, je pense qu'à Montréal, tu peux faire ta vie au complet comme ça. À Québec, c'est un peu difficile de ne pas maîtriser quelques mots de français, là, si tu veux te débrouiller à l'épicerie et tout ça. Moi, je côtoie beaucoup la communauté brésilienne. Écoute, ils parlent super bien français. Ils trippent sur les langues, ils trippent sur la culture, ils trippent sur... Ils sont capables de chanter du Gilles Vigneault. Puis genre, tu sais, des fois, ils sont plus au courant du folklore quasiment que certains jeunes Québécois.
Ça, puis j'ai envie qu'on termine avec ça, mais moi, je trouve ça super intéressant parce que je pense que vous réalisez pas que ça prend quand même des examens, ça prend un savoir de notre culture pour être capable d'immigrer au Canada. Puis souvent, il y a des gens qui ont immigré qui en savent beaucoup plus sur notre histoire que nous-mêmes, on en sait.
Puis le fameux PEC... obligé de maîtriser un français intermédiaire avancé pour réussir à avoir la permanence. Donc, pour avoir accès à ce programme-là, tu devais parler français. Par contre, de l'autre côté, on coupe les cours de français. On coupe la francisation.
Ironique. Simon Rondeau, travailleur social, merci pour le petit cours 101. Vraiment,
toujours un plaisir.
Je vais aller vous lire au 88-971-1021 quelques textos qui sont entrés. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Simon, toujours des sujets qui sont super intéressants. On se refera une petite chronique sous peu, puis on va mettre ça sur le blvd.fm.
Au retour, merci. Les nouvelles et Pascal CV.